Bonjour, je m'appelle Annie Devant-Bruchy, je suis conservateur en chef au Musée des Beaux-Arts de Lille. Ma spécialité, c'est le 19e siècle, peinture, sculpture. Et c'est pour cette raison que je me suis intéressée à Millet et que j'ai eu l'idée de proposer ce sujet-là à notre directeur qui souhaitait une grande exposition. Et parallèlement, j'ai une collègue, Chantal Georgel, qui venait juste de publier un très bel ouvrage sur Millet, avec de très belles représentations. Et c'est comme ça que nous avons collaboré toutes les deux pour monter cette exposition et pour dépoussiérer en fait ce peintre qui est aujourd'hui caché par l'Angélus. Tout le monde connaît, je suis certaine que tout le monde connaît l'Angélus, même sans savoir que c'est de Millet, parce qu'on le retrouve partout, dans les gravures, sur toutes sortes d'objets. Vous allez à Oisem le dimanche, je suis certaine que vous trouverez un Angélus qui décore un objet. Et donc, c'est une manière de réhabiliter ce peintre qui est un immense peintre, un des plus grands sur l'échelle de l'histoire de l'art français.
Alors, on va revenir à son époque. Qui trouvait-on artistiquement à cette époque ?
Alors, à cette époque, donc le milieu du 19e siècle, c'était Courbet qui émergeait avec l'enterrement à Ornan. C'était Delacroix qui était le grand romantique, très officiel. Et puis l'autre grande figure, c'était Ingres. Donc, cette manière de simplifier les figures, mais qui a abouti à l'académisme, c'est-à-dire à une sorte de peinture très convenue sur des sujets mythologiques, des sujets très classiques. Et puis dans les années 60, nous avons les peintres impressionnistes, enfin qui ne sont pas encore impressionnistes, qui se rendent dans la forêt de Fontainebleau et à Barbizon, et qui, avec leur chevalet, et qui se mettent à peindre directement sur le site et sur le motif. Et donc Millet appartient à cette époque.
Alors ça m'a semblé étonnant, mais en regardant les dernières œuvres de Millet, je me suis dit, là, il a compris qu'il y avait la concurrence de la photo, même s'il y a un peu touché, et qu'il veut absolument se démarquer en disant la peinture, c'est une autre forme d'interprétation, et c'est aussi quelque chose qui peut s'ouvrir, notamment vers l'impressionnisme.
Mais je pense que Millet a regardé la photographie, mais c'est avant tout un peintre et il a toujours agi en tant que peintre. Et sa peinture reste jusqu'au bout une œuvre de peintre, dans la mesure où il jette sa touche, qui est très rapide, qui est très précise également, très synthétique, c'est-à-dire qu'il cerne les formes. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un tableau, l'horizon est très haut, et puis tout en haut, vous avez juste deux touches très clair, c'est une femme qui traie une vache. Tout ça en deux touches, la photographie ne rendra jamais ce genre d'allusion en tant que forme et en tant qu'atmosphère. Et Millet excelle dans ce genre d'invention en fait, en termes de composition et de manière de manier son pinceau, parce que quand on regarde les pastels, il traite son pastel comme il traite l'huile et inversement. Et par moment, pendant une fraction de seconde, on se demande si c'est du pastel ou de l'huile, ce qui est assez extraordinaire.
Voilà, donc Millet, on est à une époque où il est connu. On le voit moins pour des raisons qui tiennent de quoi, du marketing.
Non, c'est de l'usure. Il a été trop caché par l'Angélus. Et l'Angélus s'est usé. Enfin, c'est simplement cette raison. Et puis, quand on oublie, les personnes, comme les choses sans poussière. Et je pense que c'est aussi simple que ça. Mais la redécouverte actuellement, elle est vraiment portée aussi par notre époque, qui est ce regard, ce regain d'attention envers la nature. On se rend compte que là la nature, on est en train de l'abîmer, que c'est notre seule chance de survie sur la planète, ne serait-ce que la vogue du bio. Millet, en fait, nous rappelle effectivement l'aspect essentiel de la nature, de l'homme à la terre, l'attachement de l'homme à la terre et de la dépendance de l'homme vis-à-vis de la terre.
Donc Millet est très collectionné au Japon.
Oui.
Et là, il y a aussi une partie importante de cette exposition qui est consacrée aux États-Unis.
Parce que les États-Unis, en fait, les Américains, avant les Français, ont apprécié tout de suite Millet pour la force de ses figures, le côté émouvant de ses atmosphères. Et en plus, Millet a sympathisé avec quelques peintres américains, Wheelwright entre autres, Babcock, qui, lorsqu'ils sont retournés aux États-Unis, ont transmis la leçon de Millet par leur peinture. On parlait de l'artiste, et c'est comme ça que Millet a été très, très connu, et qu'en fait, c'est son œuvre paysanne, sa geste paysanne, a été assimilée au mouvement des pionniers qui gagnaient donc l'ouest des États-Unis.
Et donc il y a une œuvre cinématographique qu'on peut voir ici qui est assez bouleversante.
Matt Colichaud ? Ah oui, c'est émouvant là, sur ce très grand écran, ces herbes qui bougent tout doucement et qui rappellent en fait l'importance de la nature dans l'œuvre de Millet. Cette attention que Millet avait envers le moindre brin d'herbe, la moindre fleur, et il le disait, ils sont aussi importants que les figures de personnages.
Alors, est-ce que pour lui, c'était la nature qui était importante ou les gens qui l'entretenaient ?
C'est les deux. Ce sont les deux. C'est les gens qui l'entretenaient et qui l'exploitaient, mais pour la vie de leur famille et la vie des citadins. Et en même temps, il y a une osmose entre les deux et je crois que c'est ça qui était le plus important aux yeux de Millet, qui lui faisait partie aussi de cette osmose, puisqu'il passait des heures à les observer. Et puis après, il retravaillait le sujet en atelier.
Alors, au-delà de l'intérêt de Millet à l'étranger, est-ce qu'on peut dire que le conceptualisme a tué, quelque part, sa représentation ou son espace ?
C'est vrai, il faut toujours se méfier un peu des concepts, des étiquettes. Et parce qu'en fait, vous avez tout à fait raison, Millet est inclassable. Il est à la fois romantique, comme on voit au début de sa carrière, avec cet intérêt pour Géricault, son aîné. Et quand on voit ses dernières œuvres dans la dernière section intitulée Infini, il est à la fois romantique, il est à la fois expressionniste dans les dénicheurs de nids. C'est une explosion de lumière, de touches picturales. C'est du surréalisme aussi parfois et il est hors norme.
Alors dans cette dernière pièce, dans ce dernier espace, on a l'impression d'une paix intérieure chez Millet.
Oui, c'est vrai. Parce qu'il est conscient, en fait, là, il y a une dimension métaphysique ou mystique. C'est ce qu'il dit à Sancier, à son ami Sancier. En fait, les astres, les étoiles comme le soleil, éclairent nos joies et nos peines. Mais quand nous disparaîtrons, ils seront toujours là et ils éclaireront d'autres joies, d'autres peines. Et je pense qu'il y a cette sorte de philosophie alliée à un sentiment du sacré, de la nature, qui lui donne cet aspect zen. Mais l'ensemble de l'exposition, je trouve, bien que les figures paysannes du début sont parfois assez dures, le tueur de cochons, par exemple, mais on sent qu'il y a un chemin vers cette plénitude.
Et avec l'idée aussi que la nature, forcément, sera incontournable.
Ah oui, alors ça, c'est la grande leçon, et c'est ce que nous devons retenir. Et je pense que c'est par ce biais, peut-être, que beaucoup de visiteurs seront sensibles à cet artiste.